Bonjour, bonjour. Enfin, Spectaculaire commence ce mercredi. Le combien sommes-nous? Le 2 mai 2018, 14h06 à la pendule de Radio Canu. Christophe Roland au micro, Gérald est là et Vincent Balz est également là. Jeune chef d'orchestre, j'ai voulu écrire tout d'abord sur le blog Pétri de talent et puis je me suis dit que la formulation était peut-être un peu gênante. Alors j'ai indiqué le jeune chef d'orchestre très jeune chef d'orchestre très très talentueux. Il est là pour le concert qu'il joue demain avec l'orchestre de chambre de Lyon. C'est bien le nom de cet ensemble, l'orchestre de chambre de Lyon, un jeune ensemble qui est absolument génial. Voilà, j'en parle comme ça et je vous invite à aller les écouter demain, 20h30. Je ne l'ai pas indiqué sur le blog, c'était à la salle Molière pour un programme autour des œuvres de Mozart. Et je trouve ça toujours très bien, un programme qui est cohérent autour d'un artiste. Nous, on va commencer avec un autre artiste, Wynton Marsalis, parce que vous allez voir, Wynton Marsalis est lié à l'orchestre de chambre de Lyon. C'est Vincent qui va nous le dire dans quelques instants, une fois qu'on aura écouté le début de cette œuvre. Je ne sais même pas comment la nommer, une sorte d'oratorio, oratorio jazz classique. C'est un extrait de l'album que Esa-Pekka Salonen a enregistré avec le Los Angeles Philharmonic Orchestra et le Lincoln également Center Jazz Orchestra. Commençons de cette manière, comme tous les mercredis, sur Radio Canu, l'émission Spectaculaire. Vous nous écoutez jusqu'à 15h, vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM ou bien sur radiocanu.org et c'est très bien. Du jazz pour commencer, puis ensuite vous allez voir, ça va partir dans tous les sens et avec ce jeune chef Vincent Balz, ça va être très bien. vont continuer encore dans cette ouverture de All Rise. Mais on va en rester là. Bonjour Gérald.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors ce n'est pas l'œuvre, attention auditeur, qui sera programmée au concert du jeudi 31 mai. Mais non, je ne parle pas de toute façon dans un premier temps du concert de ce jeudi 31 mai. Tout d'abord parlons plus précisément de ce concert à venir demain, jeudi 3 mai, 20h30, à la salle Molière, un concert autour d'œuvres de Mozart, l'ouverture des Noces de Figaro, quelques symphonies, un mouvement seulement pour l'une des symphonies, et puis des concertos pour harpe, différentes choses. Comme d'habitude, auditeurs, vous le savez, ce sera le programme de la deuxième partie d'émission. Dans un premier temps, puisque nous recevons ce jeune, j'insiste, j'aime bien dire jeune, hein, nous-mêmes, Gérald, nous le sommes, mais bon, c'est quand on reçoit des invités qui sont encore plus que nous, il faut le dire aussi. Gérald Premier, je parle, et puis ensuite je m'arrête, tu vas voir ça dans quelques instants. Donc, puisque nous recevons un jeune chef d'orchestre, laissons-le parler, se présenter, Vincent Balz, même je crois avoir entendu dire que vous aviez peut-être un deuxième nom de famille. Écoutez, je vous en prie, c'est le début d'émission. Oui. Vous faites ce que vous souhaitez pour vous présenter. Pour
indiquer bon, mais écoutez, bonjour à tous en tout cas. Oui, Vincent Balz, mon nom de scène. Il se trouve que j'ai en effet un autre nom de famille, Sangaré, d'origine sénégalaise, et de par mon père en fait, qui sont mes origines multiples, françaises et sénégalaises. Donc Vincent Sangaré Balz, mais depuis une petite quinzaine d'années, on m'appelle uniquement Vincent Balz. En fait, c'est suite à mon départ aux États-Unis, les Américains sont pas très, très friand des noms composés, des noms à accent, donc j'ai simplifié le tout en Vincent Balz et ça marche très bien.
Ça peut avoir son importance parce que vous avez, donc vous l'indiquez tout à l'heure hors antenne, nous sommes un peu parlé, un background culturel assez divers et il faut que vous en disiez certainement maintenant 2-3 mots. Et puis aussi, je vous ai présenté comme étant chef d'orchestre. Vous êtes aussi pianiste?
Oui, je suis pianiste, oui, depuis toujours. Enfin, j'ai commencé à jouer du piano quand j'avais 4 ou 5 ans. Les premiers concerts vers 8-9 ans. Je suis rentré au Conservatoire de Paris en piano au départ. Donc, c'est vrai que c'est ma formation est de pianiste. Et puis, j'ai par la suite, je me suis un peu infléchi vers la direction d'orchestre tout en conservant les deux casquettes. Et je me plais beaucoup à pouvoir continuer à faire les deux choses à la fois.
Et alors donc ce comment appeler ça, ce plutôt le terme français existe, ce paysage culturel. Alors il faut que nous y aient.
Oui, ben en fait, c'est vrai que je viens d'une famille qui est très multiculturelle. Nous sommes originaires du sud de la France, de Bordeaux, de par ma mère et de la famille de ma mère. Mais il se trouve qu'à la génération qui me précède, tous les frères et sœurs ont eu des aventures, ou en tout cas des mariages, qui ont embrassé d'autres cultures, alors à la fois asiatiques, africaines, des pays du Nord, l'Amérique du Sud également. Donc, à notre génération, à nous, tous les cousins avons déjà des looks différents. On se ressemble pas du tout, mais voilà, et surtout des racines variées et diverses.
Et alors, est-ce toujours la musique, ou alors Gérald, tu pourrais peut-être le demander, est-ce qu'il y a un peu aussi d'art plastique, est-ce qu'il y a des choses un peu plus peut-être, comment dire,
beaucoup visuelle. La musique, il faut dire beaucoup la musique. Il y a une cousine à moi qui est quand même très qui a fait les beaux-arts et les arts déco et qui donc est très habile de ses mains pour sculpter, peindre et tout ça, mais sinon on est quand même nombreux à faire de la musique, ouais.
Et dans tous les styles.
Et dans tous les styles, oui, exactement. Il y en a qui sont allés vers le blues et le jazz un petit peu plus, d'autres vers la musique classique, pas mal d'instruments différents. Il y a de la contrebasse, de la basse, du piano, de la guitare. Enfin,
ce qu'on vient d'écouter là, c'était un mélange de jazz et de musique classique.
Exactement, oui, ça c'est une des grandes forces de Winton. C'est vrai que jusqu'à.
On le renomme Winton.
Winton Marsalis, oui. C'est un des grands noms du jazz et de la trompette du 20e et 21e siècle. Mais c'est bien plus que ça, en fait. Au-delà de ses capacités de compositeur et d'interprète qui sont hors normes, c'est avant tout un grand humaniste, un grand éducateur. C'est quelqu'un qui a participé à de très très nombreux programmes et de très nombreuses choses qui ont permis de faire évoluer la condition des Afro-Américains aux États-Unis, pas seulement. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est vraiment très très ciblé vers l'éducation et le bienfait de l'apprentissage musical et artistique pour
maximum de gens.
Exactement.
Il est ambassadeur de l'UNESCO aussi.
Ah ouais, il a été très impliqué à tous les niveaux, dans les plus hauts niveaux politiques américains et internationaux du coup, puisque ce sont des grosses organisations.
Donc. Vous avez eu la chance de le rencontrer. Et racontez-nous cette histoire.
C'est la rencontre qu'il faut faire, parce que j'y pense, on coupe court tout de suite à cette autre question que nous posons généralement. Comment êtes-vous venu à la musique? Vous l'avez dit, quoi. C'est
ouais,
vraiment la,
alors,
votre famille.
C'est ça. Moi, il y avait un piano chez moi depuis que j'étais tout petit. Je jouais sur le piano. J'avais plutôt une bonne oreille, donc j'arrivais à reproduire à peu près tout et n'importe quoi. Un jour, ma mère m'a demandé si je voulais prendre des cours. J'ai dit oui, et ça s'est fait comme ça, en fait, très naturellement.
Ah, il y avait la rencontre avec un professeur quand même. J'ai lu ça, Gérald. On le tient, le professeur,
oui,
professeur
alors,
de musique
c'est
de vos
ça.
Jeunes années. Collège,
oui, la professeure, c'est une professeure russe, d'origine russe, qui est en France depuis plus d'une trentaine d'années, voilà, et qui a donc Madame Zorine, qui m'a élevé musicalement.
Collège, lycée?
Non, c'était déjà école primaire.
Ah, d'accord.
Voilà,
ah,
au berceau. Exactement. Et je dis bien élevé musicalement parce que les professeurs russes sont très maternels ou paternels avec leurs élèves et c'est vraiment un don de soi incomparable avec une certaine aussi rigidité dans l'enseignement, mais qui a porté ses fruits depuis des décennies, ça c'est sûr.
Donc une rencontre qui a compté. Alors peut-être avant la rencontre de Winton Marsalis,
oui.
Une autre rencontre, je crois, lorsque vous passez un concours, c'est déjà à Paris ou
pas? Oui, alors c'était pas un concours, c'était lors d'un festival qui avait lieu dans le sud de la France auquel je participais. J'ai rencontré un gars que je ne connaissais pas, américain aussi, du nom de Hezekiah Brinson, qui s'est avéré être un des producteurs en fait de l'un des deux groupes qui se produisaient à ce festival. Et donc ce monsieur a d'abord été interpellé par notre background justement familial et c'est vrai que bon, ils ont la notion de melting pot, mais en fait aux États-Unis ça reste une notion un peu théorique, quoi. C'est pas vraiment quelque chose qui se pratique tant que ça, donc le fait de pouvoir rencontrer en face de lui des familles complètement multiculturelles et que ça soit tout ce qu'il y a de plus normal, il a trouvé ça génial. La discussion s'est faite comme ça, petit à petit il a découvert que j'étais pianiste de formation classique, il m'a demandé de jouer, et comme il était producteur, le 15 jours plus tard, j'étais dans l'avion pour les États-Unis.
Voilà. Pour partir.
Exactement, ouais. Ils font ça à l'américaine, c'est-à-dire qu'il m'a dit il faut absolument que je rencontre tes parents. Le soir même, il était en train de discuter avec ma mère. J'ai un peu l'impression de rencontrer Michael Jackson.
Alors, est-ce que, donc, arrivant enfin à Winton Marsalis, vous le rencontrez là-bas, côté New Orleans?
C'est ça, en fait, donc ce monsieur, là, monsieur Brinson, m'a amené à la Nouvelle-Orléans parce que c'était sa terre d'activité. Et j'y suis tourner très régulièrement, et l'une des fois j'ai partagé la scène avec un éminent pianiste de jazz du nom d'Ellis Marsalis. Donc Ellis Marsalis, c'est le papa de Winton, de Brantford et d'Delphayo, Jason, enfin tous les frères connus, et c'est un personnage qui a appris le jazz et enseigné le jazz à des milliers d'interprètes actuels. Et donc ce monsieur, nous avons sympathisé, échangé, et puis il m'a dit écoute, moi il faut absolument que tu ailles voir mon fils Winton, je sais plus si c'est l'aîné ou le second, mais en tout cas c'est un des deux premiers, qui lui a fait une double carrière à la fois jazz et classique, et qui est donc avait vraiment baigné dans ce milieu là et avait la connaissance de cette musique là et donc pareil, il m'a remis dans un avion le surlendemain pour aller voir Winton à New York, et notre première rencontre s'est faite comme ça.
Ça, c'est il y a presque 20 ans.
Ben oui, je suis pas si jeune que ça, en fait.
Oh ouais, monsieur.
J'étais très jeune à l'époque, mais oui, c'était il y a presque entre 15 et 20 ans. Ouais,
est-ce que c'est là, ce fameux Lincoln Center Jazz?
Oui.
À New York.
Alors, le Lincoln Center, c'est juste pour que vous sachiez, en fait, c'est un groupement d'institutions artistiques qui existe depuis, je crois, la fin des années 60. Et en fait, c'est un berceau qui est à Manhattan, à côté de Central Park, où sont agrégés l'opéra, donc le Metropolitan Opera de New York, le New York City Ballet, le American Theater, la Juilliard School, le Avery Fisher Hall, il y a le Carnegie Hall qui est pas loin, donc tout le centre névralgique des arts avec un grand A, si on veut dire savant, en tout cas aux États-Unis, sont là dans ce terroir. Et donc c'est incroyable, parce que c'est vraiment un endroit où, dès qu'on tourne la tête, on voit déjà, c'est fabuleux l'espace, et puis en plus la qualité des des productions sans
d'ailleurs, sans appel. D'échanges et de rencontres musiciennes voilà. Entre tous les domaines.
Oui, exactement, ouais, c'est ça, on est sur place et tout est là, tout se passe là. Et en fait, Winton, quand il est arrivé, c'est un mec qui, très jeune, a percé, il est pareil, arrivé à la Juilliard, et puis il a fait à la fois du classique et du jazz. Art Blakey l'a récupéré quand il a eu 17 ans, je crois, pour l'intégrer dans son groupe. Puis il a mis ses propres formations. Ensuite, deux ou trois années d'affilée, ça a été, il a reçu les Grammy de meilleur artiste de jazz et de classique la même année, le truc qui n'a jamais été fait. Voilà. Et puis petit à petit, il s'est positionné, puisque comme c'est quelqu'un, je vous disais, de très intellectuel aussi, il a souhaité se positionner comme un réel ambassadeur du jazz. Pas seulement dans l'innovation et dans le fait d'essayer de faire évoluer cette musique, mais aussi dans le fait de nourrir et de capitaliser sur l'existant et de montrer que les trésors de Duke Ellington, de Count Basie, de tout ce qui venait de passer, c'était aussi vraiment un trésor. Et après, ce qu'il dit, lui, c'est que c'est vraiment le seul art qui est né aux États-Unis, la forme d'art qui est vraiment née aux États-Unis. Et que donc à ce titre-là, ils avaient tous les droits et surtout les devoirs d'essayer de les amener et de leur donner la reconnaissance qu'ils souhaitent. Et donc il s'est intégré petit à petit, ça a été une construction aussi assez longue, un peu comme ce que nous on essaie de faire à Lyon, mais il s'est intégré au Lincoln Center, d'abord sous la forme de résidence, puis sous la forme de concerts réguliers, puis une saison, et puis en 2004, là justement un peu après la parution de All Rise, il y a eu un moment assez important, puisqu'ils ont pris leur quartier de trois énormes salles de spectacle avec un petit musée dédié au jazz dans le Lincoln Center, au Time Warner Building qui donne sur Central Park. C'est un endroit incroyable. Si certains de nos auditeurs vont à New York, je vous encourage fortement à aller le voir, le Jazz at Lincoln Center. C'est vraiment super, vous ne serez pas déçus.
C'est étrange comme reconnaissance tardive. Il y a un peu le même phénomène au niveau des plasticiens afro-américains.
Ouais.
Il y a un musée qui vient de s'ouvrir il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Arte, une rediffusion. Ça. C'est très reconnaissance tardive. La France et l'Europe ont quand même joué beaucoup dans cette reconnaissance avant les Américains.
Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais après, bon, c'est difficile, nous, de le comprendre et le voir de l'extérieur. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'y habiter pendant 5-6 ans, donc je vois bien que le poids de l'histoire est encore très présent, quoi. C'est nous, on a été précurseurs, surtout nous en France, enfin au niveau de la place des civilisations et tout ça, et encore on a des problématiques qui sont à régler, hein, je dis
autres.
Pas que, voilà, qui sont autres, mais voilà, mais par contre bon, c'est assez récent. Enfin, Hezekiah Brinson, pour le citer, il m'expliquait, moi, quand je l'ai rencontré, que quand il avait mon âge, il n'avait pas le droit de s'asseoir dans les mêmes bus, qu'il allait derrière, c'était pas les mêmes écoles et tout quoi. C'est-à-dire que c'est, pour l'instant, il n'y a pas 3-4 générations entre ceux qui en parlent et ceux qui l'ont vécu, c'est toujours les mêmes personnes. Donc c'est compliqué. Puis les gens sont très arc-boutés sur leurs acquis aussi, et faire évoluer les choses, ça prend du temps, mais c'est grâce à des volontés comme celle de Winton et d'autres artistes notamment que c'est possible.
Il y a la théorie, hein, le pas est fait depuis longtemps, mais la pratique, voilà. En termes de chiffres, d'ailleurs il y a eu un numéro 1 sur la question, et on voyait avec des chiffres qu'il y avait encore de la ghettoisation, paupérisation, discrimination, même s'il y avait l'émergence d'une bourgeoisie afro-américaine.
Ça, c'est sûr.
Heureusement.
Ouais.
De manière le 1 qui sort tous les mercredis, dont tu aimes bien parler, Gérald. Auditeur, je vous renvoie à une émission, la 158 ou 159, sur l'exposition qui se termine ces jours-ci. Elle a été prolongée, elle devait s'achever à la fin avril, l'exposition sur Martin Luther King, les 55 ans de son passage à Lyon, certes, mais aussi le cinquantenaire, hélas, de son la commémoration, voilà, de sa disparition. C'était le 4 avril 68 à Memphis, au Tennessee. Julien Adler nous en avait parlé, il avait fait son voyage, un voyage là-bas avec donc dans le cadre de cette exposition qui se tient à la bibliothèque de la Part-Dieu. Donc voilà, je souhaitais, auditeurs, vous rappeler cette émission. Aujourd'hui, 163, les minutes passent, mais on n'a pas encore tout à fait terminé. Pourquoi évoquer à ce point Winton Marsalis? Il est lié à cet orchestre de chambre de Lyon. Et puis, Gérald, tu as autre chose à demander aussi, peut-être?
Alors vous vivez, j'ai dire, entre Lyon,
vous,
Paris et New York.
Oui.
Vous enseignez aussi à l'université.
Oui, exactement.
La question est lancée. L'université, que vient faire Lyon 3?
Non, je suis pas lyonnais d'origine, mais je suis arrivé, ça fait maintenant 5 ou 6 ans, et j'ai embrassé cette ville avec facilité. Je suis originaire de Bordeaux, et c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes aussi. Bon, peut-être Lyon est
l'esclavage en moins.
Voilà, l'esclavage en moins, exactement.
Enfin, il y a eu d'autres esclaves à Lyon.
Non,
hein.
C'est sûr. Et voilà, donc je suis arrivé à Lyon, et j'ai bon, pareil, le fruit des rencontres et tout ça m'a mené à faire la rencontre du président actuel de l'Université de Lyon 3, qui est Jacques Combi, super président, très dynamique, et surtout qui est très mélomane, un fervent supporter des arts, pas seulement, mais aussi. Et donc,
c'est peut-être bien de le dire, hein, parce que Lyon 3, ouais, l'image que Lyon 3 a, de manière à la fois à Lyon et puis de manière nationale, je crois, c'est pas très très beau, c'est pas très très bon.
Ben, ça l'a été, j'imagine. Moi, c'était à l'époque où je n'étais pas à Lyon.
Jean Moulin, quand même, c'est terrible.
Exactement, il faut quand même dire que depuis une dizaine, une quinzaine d'années, ça a énormément changé, et que Lyon 3 est à la pointe, enfin, au niveau vraiment des sociétés. Enfin, des universités de sciences humaines, c'est une des universités qui se porte le mieux. Les choses ont été remises à plat, et c'est comme pour tout, c'est-à-dire que la personne qui est à la tête de l'institution, donne une direction à prendre. C'est vraiment quelqu'un qui est fabuleux et qui a fait un gros gros travail à ce titre-là. Et donc, en fait, moi, pour tout vous dire, quand je suis arrivé à Lyon, j'avais un ami qui était étudiant à l'université de Lyon 3 en droit, et j'avais toujours voulu suivre un cursus de droit, notamment sur tout ce qui avait trait à la culture et aux arts. Et donc je savais qu'il y avait une très bonne fac de droit à Lyon 3 et qu'il y avait notamment un institut sur le droit de la culture. Et donc je me suis inscrit à ce cursus-là en demandant évidemment une dérogation de disponibilité, puisque avec mes activités artistiques, ça n'était pas possible. Et donc l'université a petit à petit appris qu'ils avaient dans leur rang un pianiste et un chef d'orchestre qui était étudiant chez eux.
De renommée déjà internationale.
Moi, j'ai vu un concert là, début février, ça m'a soufflé. Hein. On l'évoquera tout à l'heure.
C'est gentil. Mais parce que l'université a aussi des facilités pour justement les sportifs de haut niveau
ça. Donc, des adaptations.
Voilà, des adaptations. Et donc, une chose en amenant une autre, on m'a demandé de faire un concert, puis un autre, et puis pour commémorer chef, les 40, voilà, en tant que chef, en tant que pianiste, en tant qu'un peu tout. Voilà, et puis petit à petit pour les 40 ans de la commémoration de l'université Lyon 3, justement, on a mis en place une résidence d'artistes avec un jeune ensemble que j'avais monté en arrivant sur Lyon, donc petit orchestre de chambre, mais qui n'en avait pas encore le nom, qui s'appelait l'ensemble Nova, qui était un petit peu plus réduit. On était entre 10 et 15 musiciens, et donc c'était un ensemble à géométrie variable qui permettait de faire toute formation d'orchestre, mais aussi de la musique de chambre, des récitals, des duos, trios, tout ça. Et donc, une première année de résidence qui s'est renouvelée pendant 2 ou 3 années supplémentaires. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'organiser des concerts professionnels de qualité dans les murs de l'université, pour pouvoir les proposer aux étudiants, au personnel, et aussi au voisinage, pour essayer de décloisonner les murs de la fac et que les voisins puissent venir pour une raison autre que celle traditionnelle auquel on pourrait penser. Et donc ça s'est fait comme ça. Et puis le concept a été éprouvé et a tellement bien fonctionné qu'on s'est retrouvé à l'étroit, parce que la salle dont dispose l'université à la manufacture des tabacs, c'est une salle de 300 places, et donc 300 places, c'est vite plein. Et donc on a essayé de voir où est-ce qu'on pourrait atterrir, et notre partenariat qui s'est noué avec la ville de Lyon nous a mené à être maintenant en résidence, en résidence, c'est notre salle de représentation, c'est la salle Molière, avec ce nouvel ensemble qui là est vraiment un orchestre de chambre. Donc orchestre de chambre, c'est ça oscille entre 30 et 40 musiciens, pour ne pas confondre avec la musique de chambre qui ce sont des petits groupes qui vont de 2 à 8 personnes. L'orchestre de chambre, c'est vraiment un orchestre avec les cordes, les vents, les percussions, le piano, la harpe, enfin tout ce qu'on veut, avec une trentaine, quarantaine d'instrumentistes, et non pas dans les orchestres symphoniques ou philharmoniques, où là on peut être jusqu'à 100 musiciens.
La salle Molière, c'est quand même bien, hein. Nous recevions, il y a de cela quoi, un mois, je crois, Éric Desnoux qui nous parlait bien entendu de la chapelle de la Trinité, certes, qui est très bien, mais à côté, l'auditorium, oui d'accord, c'est très bien, mais c'est quand même énorme, immense. L'opéra, on peut peut-être beaucoup en parler. La salle Rameau, c'est terminé, la salle Rameau, je crois, c'est pas vraiment bords du travail, acoustique, je pense pas que ce soit. La salle Molière, Piano à Lyon qui s'y tient. Ouais. Jérôme Chabanne sera peut-être présent, non pas au mois de mai ni juin de cette saison, mais en septembre prochain pour parler des excellentes saisons que font Piano à Lyon. Martha Argerich vient régulièrement à Lyon.
Oui.
Je ne pense pas qu'elle puisse dire qu'elles seront régulièrement dans certaines villes d'Europe. Donc la salle Molière, certes, je crois qu'elle a noué des liens assez étroits avec Jérôme Chabanne, mais l'acoustique de cette salle, j'ai entendu plusieurs musiciens en parler et dire que alors la jauge n'est pas très grande.
Mais c'est une jauge parfaite pour nous parce que il y a quand même 600 places, 586 pour être exact. Et voilà, la salle Molière, c'est une des meilleures acoustiques d'Europe. Il y a, enfin, en France, c'est sûr, en Europe aussi, c'est vraiment un bijou. Elle est dans son jus. Enfin voilà, et on n'a pas le droit d'y toucher. Et tant mieux. Bon, c'est vrai que c'est vraiment très très agréable quand on est sur la scène. Et donc les plus grands interprètes mondiaux, internationaux, n'hésitent pas à venir à Lyon pour jouer dans cette salle. Et donc la scène n'est pas immense, mais pour un orchestre de chambre, ça contient exactement pile poil. Bon, on pourrait pas être beaucoup plus nombreux que ce que l'on est, mais voilà. Et pardonnez-moi, mais je me permets de revenir parce que pour comprendre le lien entre l'université et Wynton Marsalis, on n'a pas terminé ça. C'est que
moi, je donc peut-être une pause. 14h30, vous avez beaucoup parlé. Non,
allez,
on continue.
Non. Il faut qu'il finisse ce qu'il est en train de dire.
Je finis juste ça. Je le fais rapidement en fait.
Prenez votre temps. Attention. Je ne veux pas non plus vous presser. Non, prenez votre temps. On écoutera Mozart avec une cassette qui va crépiter dans quelques instants. Peut-être autre chose si vous pouvez nous proposer. Donc prenez votre temps. Je vous en prie. J'ai seulement rappelé l'heure comme ça.
Bien sûr.
Vincent, vous avez tout le temps pour indiquer. C'est vrai. Nous évoquions Wynton Marsalis et puis on a oublié dans la conversation.
Et donc cette production musicale que nous avons mise en place à Lyon 3 pendant ces quelques années a mené le président à décider de remettre un des doctorats honoris causa de l'université à une personnalité des arts et de la culture. Et donc forcément, le nom et la personne de Wynton Marsalis est apparu assez pertinent. Alors c'est quelqu'un qui est très occupé, comme vous pouvez l'imaginer, difficile à voir, mais il se trouve que lui et son orchestre étaient en tournée prévue en 2016 et qu'il passait à l'Auditorium de Lyon. Et donc on est arrivé à faire en sorte qu'il arrive tard dans la nuit ou tôt le matin pour passer toute la journée avec nous avant son concert
à la mairie.
Et donc la remise du doctorat honoris causa s'est passée dans le grand salon de la mairie avec Georges Képénétian, exactement, notre actuel maire. Et ça a été un moment incroyable. En fait au départ ça devait durer une heure avec une petite demi-heure de discours, de présentation et une demi-heure de musique. Bon, on a fini par faire quasiment une heure de musique et son discours, lui qui devait durer 5 minutes, a duré quasiment une heure. Donc il a parlé il a une affection particulière pour la France. Il est au Festival de Marciac depuis 30 ans, il adore la gastronomie.
Pas de doctorat européen
Harvard, Columbia, Princeton, machin, et maintenant il a Lyon 3. Ouais, pas mal. Donc voilà, on a fait ça, on s'était produit donc avec l'orchestre à la mairie devant Wynton. Il a trouvé l'idée géniale, puisque cet orchestre aussi, enfin moi je fais en sorte de cultiver une sorte de jeunisme, enfin c'est-à-dire que les musiciens qui en font partie, les solistes qui viennent jouer ont entre 25 et 35 ans. Enfin, pas que, hein, mais c'est vraiment un tremplin pour mettre en avant les jeunes musiciens professionnels qui sont ravis de pouvoir partager leur art et leur instrument. Donc voilà le lien entre
qualité. Le Figaro dans ce Barbier de Séville de Rossini en février dernier. Ah, les bras m'en sont tombés.
Enfin, oui, Guillaume Andrieux, c'est sûr. Il est fabuleux. Amaya Dominguez qui a joué Rosine aussi. En fait, ce sont des stars. Ils chantent à Bastille, ils chantent au Metropolitan, ils chantent partout. C'est juste que
vous avez à Lyon 3.
Parce que en fait, vous savez, la musique, c'est un petit monde. Hein, tout le monde se connaît. On a l'habitude de se croiser, on se voit souvent dans les festivals, dans les salles, on a fait des études ensemble dans les aéroports. Et donc voilà. Et y a l'affect rentre aussi beaucoup en compte. Et donc dès qu'on a la possibilité ou l'occasion de faire de la musique ensemble, on est ravis de le faire et quand ça se passe avec des artistes de grand talent qui n'ont pas la grosse tête, ça se passe super et donc ravis de pouvoir faire ça.
C'était super, ça devait être sans mise en scène, il y avait quand même de la mise en scène. Hein,
oui.
Ils arrivaient de différents endroits, enfin du moins.
Alors je rebondis, hein, mais ça devait être sans mise en scène et la personne qui devait faire la mise en scène en fait a eu un petit empêchement et donc un mois avant, Amaya me dit, mais en fait, moi, je l'ai fait avec un metteur en scène super. Il est d'accord pour venir et tout. Et je lui dis, ah, d'accord, bah, c'est qui est-ce que... Elle me dit, c'est Alain Garichaud. Alain Garichaud, c'est un des plus grands metteurs en scène. Enfin, il a fait toute sa carrière de la mise en scène d'opéra depuis 40 ans. Il a travaillé dans toutes les maisons. Et il est venu faire.
Tout un tas de gestes. Vous aussi, vous contribuez un peu.
C'est ça.
Il y avait une caresse qui était faite sur votre beau crâne chevelu. Non, je présente auditeur. Allez voir Vincent Balz demain sur scène, ou le 31 mai. Gérald, oui.
Pour finir avec le portrait, avant d'attaquer l'actualité et la soirée Mozart de demain soir, j'ai une petite question toute simple. En tant que pianiste, vous avez peut-être un répertoire de prédilection, et en tant que chef et chef d'orchestre, vous avez peut-être un autre qui n'est pas le même, ou alors ?
Alors, ben, c'est vrai, bon, c'est toujours difficile de choisir un compositeur parmi d'autres, parce qu'il y a des œuvres fabuleuses partout. Mais moi, j'ai une appétence particulière pour la période classique, donc là, on est en plein dedans pour le concert de demain. Je suis un vétéré de Mozart, Beethoven, John Schubert, Haydn, enfin ça c'est vraiment au piano, j'adore jouer cette musique-là, j'adore jouer la musique de Chopin, je suis
aussi... Un peu 19e quand même alors.
Voilà, un peu 19e, Brahms évidemment.
Schumann.
Schumann, ouais, j'en joue moins souvent, mais... Bah, j'ai des œuvres de prédilection, l'Opus 12, le Carnaval, enfin, il y a pas mal de choses que je joue.
Mm-hmm. Et, ça, c'est en tant que pianiste.
Oui, en tant que pianiste.
18e, 19e, on va dire.
Voilà, et puis, non, mais j'y arrive petit à petit. Mm-hmm. Voilà, après, dans mes compositeurs favoris, j'ai aussi Debussy, Ravel, comme tout pianiste qui se respecte. et puis, j'aime jouer Prokofiev et Shostakovich.
Shostakovich, voilà. Génial. Ouais, et Bartok.
Et Bartok aussi.
Janáček.
Janáček, bon, j'ai joué quelques œuvres, surtout de musique de chambre, mais j'ai pas joué énormément. Le répertoire pour piano seul. Voilà, bah après c'est sans fin, hein. Vous savez, si j'arrive à toucher un dixième du répertoire de piano dans ma vie, je serais ravi déjà. Et voilà, et en tant que chef, bah évidemment ces compositeurs là aussi, mais après je suis un invétéré de malheur, c'est donc pour la musique d'orchestre, bah c'est juste fabuleux.
C'est mieux que Wagner.
c'est un peu différent, mais bon.
Ça. Toutes ces symphonies, également le chant de la terre, oui.
Voilà, bien sûr.
C'est les chants d'un compagnon errant.
Mais c'est vraiment incroyable. Et puis après, tous les autres compositeurs que j'ai cités aussi. Beethoven.
Votre souvenir du meilleur souvenir de concert que vous ayez eu en tant que chef et puis en tant que pianiste.
Un souvenir, ça dépend, un souvenir musical ou un souvenir de conditions de concert, parce que c'est pas la même chose.
Musical, moi, je dirais.
Souvenir musical, bon, la première fois que j'ai joué pour Rostropovitch. Enfin, il y en a deux, je vais quand même choisir. Voilà, c'était quand même incroyable parce que j'étais
avec lui.
Alors, il a pris le violoncelle, il a joué quelques notes. Parce que c'était dans le cadre d'une masterclass et on a donné un concert. Et il nous a parlé. Enfin, c'était une rencontre juste fabuleuse. Ça, c'est il nous a parlé de Prokofiev, de la symphonie concertante pour violoncelle et piano, notamment. Enfin, violoncelle et orchestre, plus exactement. Mais là, on avait joué la réduction. Et en tant que concert et pianiste, vraiment, c'est la première fois que j'ai joué avec Maxime Vengerov.
Grand violoniste.
Très grand violoniste, et puis une maîtrise, une passion, une énergie, et il emmène tout sur son passage, quoi. Enfin, il l'emmenait à l'époque et c'est toujours le cas, donc c'était vraiment une Rolls, quoi, de pouvoir jouer avec lui, de partager la scène avec lui. Et en tant que chef, c'est un petit peu plus rigolo, mais c'est on a fait un concert avec l'orchestre de symphonique de San Antonio pour le mariage de Tony Parker dans son jardin en jouant des œuvres arrangées.
Quel mariage, le premier,
on avait
vous
joué, mais c'était
également intervenu.
Voilà, ouais, j'étais également intervenu, mais avec des musiciens français, puisque celui-ci avait lieu à Paris. Mais par contre, celui-là, et c'était un concert incroyable, parce qu'en fait, on a joué des œuvres arrangées pour orchestre symphonique et chœur de Michael Jackson, Nirvana, Coldplay, avec l'énergie de l'orchestre,
c'était une fête.
C'était une grande fête et c'était la première fois que je jouais avec cet orchestre, donc c'était une rencontre un peu particulière, mais c'était un moment remarquable.
Et Gérald, il faudra réinviter Vincent Balz, mais pour l'instant, ménageons-nous une pause avant de parler plus précisément de la soirée de demain, le jeudi 3 mai à 20h30, qui se tiendra bien à la salle Molière. Non, je me trompe. Depuis le début, je dis 20h30. En fait, non, c'est bien 20h. Oui. Je l'avais également annoncé sur le blog, j'ai mis 20h30, puis j'ai corrigé ensuite. Non, c'est bien 20h. Grande soirée Mozart. Il y aura ensuite, pour terminer la saison, une grande soirée Beethoven, le mercredi 20 juin. Et entre les deux, une soirée le 31 mai, le jeudi 31 mai, A Fiddler's Tale, avec à la fois A Soldier's Tale, on pourrait dire l'histoire du soldat de Stravinsky. Une première partie, puis ensuite deuxième partie. Disons peut-être pour moi une œuvre de Marsalis, parce que depuis le début de saison, vous l'avez joué Marsalis ou pas encore?
C'est vraiment prévu
donc,
pour
Winton Marsalis, pour ce A Fiddler's Tale, une composition.
Donc de Winton qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant. En fait, il a une affection toute particulière pour Stravinsky. Et donc, vous savez que l'orchestration de l'histoire du soldat est très particulière. Enfin, c'est un septet.
Oui, c'est ça.
Avec deux cordes, deux bois, deux cuivres, une percu. Enfin, c'est. Et donc, il a eu l'idée de composer une suite. C'est pas vraiment une suite en fait, c'est la même histoire mais à sa sauce, une œuvre en correspondance pour la même orchestration. Mm-hmm. Donc mais avec les influences et les racines blues et jazz, et avec la même histoire. Donc au lieu que ce soit un soldat et le diable, ça devient, c'est une fille qui est violoniste qui se fait arnaquer par son agent qui représente le diable, évidemment. Enfin voilà, je laisse les loisirs aux futurs auditeurs de venir découvrir cette œuvre.
Enfin, ce sera un peu une femme, et puis en fait non, elle va être
Robert Johnson.
On va l'utiliser. Bon, auditeur, ménageons-nous donc cette pause avec, on va essayer d'écouter une sonatine, tu m'as dit Gérald,
on va essayer,
c'est
oui.
Une cassette
jouée par Gustav Leonhardt sur instrument ancien. J'adore les sonatines de Mozart.
On va essayer.
C'est le pendant des Requiem. Je connais très peu de Mozart. Il y a tellement de choses.
Si,
c'est tellement énorme comme répertoire.
Si ça ne marche là, pas, c'est... il faudra compter sur des.
Sur autre chose, on mettra autre chose.
Avec lesquels Vincent est également venu parce qu'on passe trop de musique, nous, Gérald, et c'est quand même l'invité qui doit en passer. Donc tentons.
On tente, et puis. Et c'est très court.
Cette cassette, c'est très court. Et puis ensuite, nous préciserons plus précisément, bien entendu. Enfin, nous verrons plus de détails pour ces soirées à venir.
Surtout la soirée Mozart demain.
Jeudi 31 mai et le mercredi 20 juin. Et entre temps, enfin, plus précisément encore, 20h. Demain, salle Molière, la soirée Mozart. Thank you. On va rester avec Mozart, mais on va passer sur un autre Mozart, peut-être un peu plus récent, un peu plus...
Dirigé par notre invité.
Non, pas dirigé, interprété.
Interprété.
Qu'est-ce que c'était alors cela? C'est pour parler de ce concert Mozart de demain.
Oui, c'était un enregistrement que j'ai fait quand j'étais très jeune, je crois, 18 ans, du Köchel 330,
la sonate en D majeur. Ça ne fait pas encore 20 ans. Donc c'est,
ça ne fait pas encore 20 ans, exactement.
Vous avez indiqué quel Köchel
c'est le... 330, c'est la sonate en D majeur, c'est le final de cette sonate. Un petit allegretto plein d'humour, de pétillance et de bonne humeur.
Donc Vincent Balz, chef d'orchestre, mais voilà, on l'écoute à l'instant, pianiste aussi. Et alors ce programme demain, c'est vous qui l'avez concocté, qui l'avez décidé?
Oui. C'est-à-dire que la programmation, voilà, l'orchestre de chambre de Lyon,
la salle Molière à 20h.
Exactement, avec sa saison publique, nous avons essayé avec Winton de faire une programmation qui soit...
Il a eu un regard, oui.
Oui, bien sûr, oui. Une programmation qui soit éclectique, qui soit variée. L'une des missions que l'on s'est donnée avec l'orchestre, c'est vraiment de cibler des nouveaux publics et notamment le public des étudiants, des scolaires, secondaires, et pas seulement évidemment. Mais
moi, quand j'y étais début février, j'ai trouvé que c'était un public habituel de concert. Ouais, peut-être un peu chenu, enfin du moins un peu.
C'est ça, mais en fait, la façon dont l'orchestre fonctionne, notamment dans son articulation financière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a du mécénat traditionnel, il y a de la billetterie traditionnelle avec un public traditionnel, et il y a aussi tout l'apport et le soutien de l'université. Et donc
Crous,
à ce titre-là, voilà, le Crous également aussi. Et donc la jauge de la salle Molière est répartie entre ces différents contributeurs. Pour chaque concert, on a 200-250 places qui sont réservées pour les étudiants et les personnels de l'université. Et donc c'est vrai que c'est qui eux peuvent avoir accès à ces concerts gratuitement. Et c'est aussi dans ce sens-là que l'on pense et que l'on réfléchit notre programmation. Et donc c'est vrai qu'en voyant la programmation de la saison, on se rend compte que c'est quelque chose de très varié. Enfin, c'est vrai que les concerts que l'on fait sur la fin de l'année font vraiment partie du répertoire, que ce soit celui autour de Stravinsky, Beethoven, Mozart, mais on a fait aussi un concert autour du tango en faisant venir un bandoneoniste génial et un guitariste tout aussi génial. Je dis ça parce que c'est mon beau-père, donc je peux me permettre. Il est argentin, il est guitariste, mais il est très très fort, il a une magnifique carrière, Fernando Millet. Donc on a fait tout un concert autour des tangos traditionnels et de la musique de Piazzolla.
Il y avait le Adios Nonino.
Voilà, Adios Nonino.
Je suis pas venu, mais c'était le vendredi 12 janvier dernier. Voilà. C'était là, c'est terminé.
On a fait également un concert avec une chanteuse de gospel, éminemment connue, Bridget Basile, qui reviendra sûrement la saison prochaine parce qu'elle a été plébiscitée et il y a énormément de gens qui sont restés sur le carreau, donc on va essayer de la faire revenir. Voilà, donc une saison vraiment très variée. Et. L'orchestre de chambre, entre musiciens, on appelle cet effectif, on appelle ça souvent un orchestre Mozart, parce que C'est grosso modo la taille de l'orchestre de ce qui était utilisé à l'époque.
La quintessence.
Voilà, la quintessence.
Donc c'est harpe, lutte, alto.
Non. C'est l'effectif.
D'accord.
Voilà, l'effectif des cordes avec. Nous, par exemple, on est 6, 5, 4, 3, 2, 6 au violon 1, 5 au violon 2, 4 alto, 3 violoncelles, 2 à la contrebasse. Et puis après, il y a les bois et les cuivres selon les besoins. Donc par exemple, là, en fonction des œuvres que l'on va jouer, mais il y a certaines œuvres où il y a 2 au bois de corps, et puis alors, juste une flûte, une clarinette et 2 corps ou 4 corps. Enfin voilà. Donc c'est cet effectif-là.
Pas de percussion, pas de timbales, si.
Non, pas non. Pas pour ce concert. Évidemment pour Beethoven, la 7e symphonie et l'empereur, il y aura les timbales, mais là voilà, quand on dit qu'on oscille entre 30 et 40 musiciens, c'est avec cet effectif-là, une dizaine de vents et puis l'effectif de cordes. Donc on peut pas avoir un orchestre Mozart digne de ce nom et pas faire un concert Mozart en plus avec toute
purement
l'écriture
Mozart.
Voilà, purement Mozart, et c'est vrai qu'il y a une, enfin moi en plus j'adore, je vous ai dit c'est un de mes compositeurs préférés, donc ça n'a pas été trop difficile pour moi de faire ça.
Un éventail un peu large, vous partez sur un opéra, une symphonie, des
concerts. Voilà, donc on s'est dit qu'on allait faire un concert assez traditionnel avec ouverture, concerto, symphonie.
Entracte.
Entracte, oui bien sûr.
Buvette à la Molière,
ou... ça dépend des fois en fait. Il y a lors des concerts, on a une petite buvette en général à l'entracte.
Demain, oui.
Mais demain, je crois que malheureusement ceux qui s'occupent de la buvette sont pas là, donc ils seront.
Bon, attends,
voilà. Bon, c'est pas grave.
Moi, les fumeurs peuvent. Aller
voilà, exactement. Petit
entracte. La saune,
donc nous avons choisi de commencer par l'ouverture des noces parce que ça fait toujours plaisir. et ensuite, on va présenter.
On pourrait rentrer davantage dans les détails. Pourquoi celle-ci plus que l'ouverture de Don Giovanni ou la flûte enchantée. Enfin, je ne sais pas si elle se donne également en concert.
Alors, la raison pour laquelle nous avions pensé ça, c'est parce que lors de notre concert d'ouverture, nous avons eu la chance d'avoir une soprane française aussi qui est vraiment présente un peu partout, qui s'appelle Chloé Briot, qui est lyonnaise depuis peu, enfin qui s'est installée à Lyon, mais qui parcourt le monde. Et Chloé a accepté de venir chanter avec nous et éventuellement de revenir. Elle chante notamment les airs de Chérubin.
Dans cet opéra, donc.
Voilà, dans cet opéra, exactement. Non so più, voyez que ça pétait. Et du coup, on s'était dit, au cas où elle pourrait venir pour ce concert, on n'était pas sûr encore de sa disponibilité. Nous allons proposer l'ouverture des noces et en écho, on donnera ces deux airs-là. Alors, il se trouve que elle est en représentation et en production à l'opéra de Bordeaux en ce moment. Donc, l'emploi du temps n'a pas permis de faire en sorte qu'elle soit là avec nous demain soir. Elle viendra la saison prochaine, évidemment. Mais on a quand même conservé l'ouverture des noces. Donc c'est vrai que ça aurait pu être autre chose, mais bon.
Ah, il est magnifique cet air. L'air
non so più.
Puis l'andra est
top. Deuxième morceau.
Non so più, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais c'est pas grave.
Mais c'est bien les noces figurantes.
Oui, voilà. Mais c'est voilà.
C'est peut-être pas Chérubin.
C'est tidadam, padadam, pidadam, tidadam, tadadam, tidadam.
Voilà, on reconnaît le chanson. Donc moi c'était encore pire. Poursuivons un concerto pour harpe, même plusieurs concertos. Vous donnez deux concertos, je crois.
Voilà, alors donc en fait on a le concerto pour flûte et harpe. Aussi parce que dans la programmation, j'essaie de faire en sorte que les instruments solistes soient variés, enfin comme dans tout orchestre.
Pas que du violon, violoncelle.
Voilà, pas que du violon, violoncelle, piano, de changer. On a fait le mois dernier le concerto de Shostakovich pour trompette et piano, le premier, et là cette fois-ci flûte et harpe pour justement faire découvrir ou en tout cas participer la harpe. C'est surtout dans cette.
Ah, c'est beau là.
Ben oui, surtout dans cette salle qui sonne magnifiquement. Ouais. Donc. Très très chouette, avec Johanna Holman à la harpe et à la flûte Raphaël Rublin, qui est une flûtiste avec qui nous nous produisons régulièrement, qui vient de rentrer flûte solo à l'orchestre de la Suisse romande et qui est d'origine lyonnaise. Donc il va y avoir les deux premiers rangs.
Il y a de la qualité.
Ah mais il y a de la qualité à Lyon, c'est sûr, hein, talent, ça c'est certain. Il y a un CNSM à Lyon, il y a de très grands musiciens, donc c'est chouette aussi de pouvoir leur donner la possibilité de se produire concert avec orchestre. Donc voilà. Et puis on avait pensé, enfin j'avais pensé terminer le concert par la 25e symphonie, la sol mineure, celle qu'on appelle la petite, quand bien même elle n'est pas si petite, puisqu'il y a la grande sol mineure, la 40e. Finalement, elles font quasiment la même durée. Voilà le programme tel que je l'avais pensé au départ, en incluant les airs. Et puis comme finalement Chloé n'a pas pu venir, ça me libérait un tout petit peu de temps et j'ai eu la possibilité d'avoir Françoise Miéry, qui est une des plus grandes altistes françaises.
Un autre concerto.
Voilà. Et donc, qui m'avait gentiment proposé en début de saison d'éventuellement programmer la concertante avec notre orchestre, enfin qu'elle accepterait de faire ça. Et il se trouve que François Nieri a deux filles qui sont musiciennes, dont une qui est violoniste, qui finit ses études en Allemagne, mais qui commence à jouer un petit peu partout. Et donc elle va jouer la concertante avec sa fille, donc ça va être un moment fabuleux. Alors la concertante, c'est une œuvre qui dure quand même 30-35 minutes, je crois. Donc ça faisait trop de mettre deux symphonies, c'est pour ça que j'ai gardé le premier mouvement de la 25e, et puis on fait toute la concertante dans la deuxième partie. Bon, voilà.
Eh ben, ça c'est précis comme explication.
Je n'y serai pas, moi. Toi, tu seras demain.
Ben oui, j'ai cette chance.
Formidable. Mince, il nous reste 5 minutes, donc à peine peut-être deux mots. Ah ben, ça tombe bien, vous avez déjà dit presque deux mots pour l'autre concert du jeudi 31 mai, pour terminer le mois de mai sur ce concert double autour de Soldier's Tale, l'histoire du soldat de Stravinsky, avec ensuite l'œuvre en résonance, en correspondance de Wynton Marsalis. Et puis alors il reste ce concert du mercredi 20 juin.
Ouais.
Veille de fête de la musique, c'est fait exprès.
Oui, c'est fait exprès. En général, les musiciens aiment pas trop jouer. Je devrais pas dire ça, mais le jour de la fête de la musique,
parce que
il y a un côté
vrai musicien.
Non, les musiciens professionnels, il y a un côté un peu galvaudé pour eux. Nous, on a aucun problème à jouer à la fête de la musique, mais du coup, on s'est dit que on allait au cas où tous les musiciens de l'orchestre voulaient participer à d'autres aventure le 21, les libérer et donc mettre le concert le 20.
Et alors, moi j'adore ça, auditeur, vous le savez, des concerts, des œuvres, des programmes cohérents avec non plus du Mozart, non plus je ne sais pas qui, enfin quelqu'un d'autre, mais l'autre favori que vous avez également pour cette fin 18e, c'est ça? Je suis très mauvais dans les dates. 1700, combien il meurt en 1110, 1115?
Il meurt en 1826.
Mais oh la mémoire. Nous parlons de Wolfgang, nous parlons de Ludwig.
Ludwig, exactement. Et donc, nous allons donc faire un concert autour de Beethoven avec le concerto de l'empereur, donc le cinquième concerto.
Le meilleur, le plus beau, le plus...
Ah oui, alors moi j'adore le troisième, le lutte mineure, et puis le quatrième, le sol majeur aussi. Ah, qui aime...
Le cinquième, c'est...
Voilà. Mais
c'est autre chose.
Le cinquième, c'est la quintessence, quoi. C'est l'artillerie lourde. Et donc avec le challenge de le diriger du clavier, ce qui est jamais facile pour ce concerto parce qu'il y a une grosse partie d'orchestre.
Allez voir, auditeurs, ce que ça donne.
Voilà.
Et l'autre œuvre,
choix magnifique. Voilà, 7e symphonie de Beethoven avec
elle est superbe.
Le fameux mouvement bien connu. je vous ai amené, alors je sais pas si ça vous intéresse, mais pour écouter le début de l'empereur, la version de Wilhelm Kempff avec le Berlin Philharmonique. Voilà, pour clôturer cette petite heure musicale.
D'ailleurs, en fait, on va le mettre en générique de fin, non? Parce que Gérald, je vois qu'il est 57.
Ouais.
Je ne sais pas si le blues des canuts a lieu, mais si jamais c'est le cas, attention, Vincent, une seconde, parce que peut-être une annonce Gérald,
non?
Pas d'annonce.
Non, on laisse tomber. Musique.
Si, moi j'avais peut-être deux annonces à faire. Encore gars, 58. La musique va arriver, ce sera grâce à Vincent, donc Vincent Balz, chef d'orchestre, également pianiste. Donc il a un regard peut-être critique sur cette œuvre, il sait que certainement c'est la meilleure version, c'est celle de Wilhelm Kempff au piano.
C'est une que j'aime beaucoup en tout cas.
Donc nous allons écouter ça comme générique de fin. Moi les annonces, j'avais si loin, si proche, spectacle qui va être donné au théâtre de la Croix-Rousse, c'est pas une pièce, c'est un théâtre musical, ça commence ce soir, 2 mai, que de dates, 2 et 3 mai, Abdelwahab Sefsaf. Il était question qu'on le reçoive peut-être cette semaine ou la semaine dernière, ça n'a pas pu se faire, et puis ça va, la Croix-Rousse c'est très bien, on aime beaucoup les recevoir. D'ailleurs fin mai, le mercredi 30, ce sera un magicien, Thierry Collet, qui viendra. Donc cette pièce, Si loin si proche, c'est à voir au théâtre de la Croix-Rousse, c'est ce soir et demain soir 20h, je n'ai plus les éléments sous les yeux. Et puis Nuit Sonore, c'est la semaine prochaine, sur la fin de semaine, enfin à partir du mardi jusqu'au dimanche, comme chaque année, à cheval l'Ascension. Et j'avais une dernière annonce à faire. Germania va arriver, l'avant-dernier opéra de la saison de l'Opéra de Lyon. Il y aura ensuite Don Giovanni de Mozart. Et puis je crois que j'ai tout lu. Voilà. Donc le blues des canuts n'arrive pas, mais écoutons Wilhelm Kempff dans quel mouvement?
Le premier mouvement. L'ouverture, tant qu'à faire.
D'ailleurs, je crois que le piano commence tout de suite, il me semble, c'est ça, oui.
Accord d'orchestre et puis après arpège de piano.
Donc nous terminons l'émission avec cet extrait. Il me reste à vous remercier.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation.
Bon concert. À demain.
Voilà, on revient. J'ai vos coordonnées, je vous remettrai la main dessus.
Ça marche.
Merci beaucoup et à une autre fois peut-être. Merci.
À bientôt. Au revoir.